Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Et donc bienvenue sur cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui on va parler de Robert Bloch et un peu du conte fantastique alors. Hein. Donc aujourd'hui comme nous avons comme invité Philippe Louchopier, donc vous connaissez déjà parce qu'il est venu sur plusieurs émissions.
Bon, et puis qui bonjour, va... bonjour les auditeurs amateurs de suspense.
Bon, il n'a pas de gros cigares comme Alfred Hitchcock, voilà et tout, non. Mais... Et donc, voilà, et donc c'est Philippe qui nous racontera l'histoire qu'on entendra tout à l'heure. Donc, Robert Bloch, il est né en 1917 à Chicago et il est mort en 1994 à l'âge de 77 ans à Los Angeles. Donc, c'est un écrivain américain, auteur de romans policiers et de nouvelles fantastiques. Il a donc beaucoup travaillé pour le cinéma et la télévision également en tant que scénariste. Et là, tout de suite, pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous passer le petit extrait d'un film et vous allez voir tout de suite de quel film il s'agissait, donc qui est tiré d'une nouvelle de Robert Bloch.
On en frissonne.
Voilà, à l'avance.
Excusez-moi, mais avec la pluie, je ne vous avais pas entendu. Entrez, je vous en prie.
Quel vilain temps.
Avez-vous une chambre de libre?
Oh, même plus d'une. Sur 12 chambres, aucune n'est louée. On a dévié la route nationale.
Alors c'est sans doute pour ça que je me suis égarée.
Ça arrive souvent. Les seuls clients que nous recevons à présent sont ceux qui s'égarent. Enfin, inutile de pleurer sur nos malheurs. On continue d'allumer l'enseigne et de tenir à jour les paperasses. Votre adresse aussi, seulement le nom de la ville.
Los Angeles.
Chambre 1, ce sera plus facile si vous désirez quelque chose. C'est celle à côté du bureau.
J'ai surtout besoin de dormir, je crois. Et peut-être aussi de manger.
Eh bien, il y a un très bon restaurant à 15 km d'ici, juste avant Fairville.
Fairville est si près que ça?
20 km. Je vais chercher vos valises. Ça sent un peu l'enfermer. Voilà. Le matelas est moelleux. Il y a des cintres dans la penderie. De quoi écrire également. Le papier mentionne le nom du motel au cas où vous auriez envie de demander à des amis de venir vous rejoindre. Et les... C'est là.
Les commodités.
Oui. Bon. Eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, frappez contre le mur. Je serai dans le bureau.
Merci, Monsieur Bates.
Norman Bates. Vous n'allez pas ressortir pour aller dîner par cet affreux temps, je suppose.
Non.
Faites-moi un plaisir, alors, voulez-vous? Acceptez de dîner avec moi. Je commence à avoir faim, moi aussi. Oh, un dîner très simple, un verre de lait, des sandwichs au jambon, mais je vous demanderai de venir jusqu'à la maison. C'est... Et ce sera la bonne franquette, je n'ai pas l'intention de faire des prouesses.
En ce cas, d'accord.
Et très bien. Avec toute cette humidité, vous devriez changer de chaussures. Je viendrai vous chercher dès que ce sera prêt.
Merci.
Je m'unirai d'un bon parapluie.
Ben.
Alors, vous avez reconnu peut-être le film, hein, donc c'est Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock et donc est tiré d'une histoire de Robert Bloch. Tu voulais nous dire quelque chose, Philippe?
Ben, on était en train de se dire que Norman Bates, le tenancier du motel, là, interprété par Anthony Perkins, là, il joue bien son rôle. Hein. C'est un peu après que les choses vont se gâter, on va dire, et qu'on va assister à un dédoublement complet de la personnalité. Hein. On peut le dire.
Oui, voilà, c'est... Alors, je vous propose d'écouter juste un autre petit extrait, et puis on parlera de Robert après.
Manger comme un oiseau.
Et vous êtes expert?
Pas tellement. Et puis, d'ailleurs, l'expression manger comme un oiseau est en réalité une faux. Enfin, une erreur. Parce que les oiseaux mangent énormément. Mais en réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler. Je crois que si... Je choisis spécialement les oiseaux, c'est parce que j'ai horreur des autres bêtes quand elles sont empaillées. Vous savez, les renards, les singes, énormément de personnes empaillent les chiens et les chats. Moi, je suis contre. Je crois qu'il n'y a que les oiseaux qui supportent d'être empaillés, parce que même vivants, ils ont un côté passif.
C'est un passe-temps surprenant, étrange.
Et aussi peu commun.
Je le crois volontiers.
Et ce n'est pas très onéreux, ça ne coûte presque rien. Des aiguilles, du fil, du son. Et il n'y a que les produits chimiques qui coûtent assez cher.
Il est bon qu'un homme ait un passe-temps.
Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps. Un passe-temps ne peut aider qu'à passer le temps, selon moi, non à le remplir.
Votre vie est tellement vide?
Non. D'abord, j'ai du travail au bureau. Et... J'entretiens les chambres et la maison. J'ai aussi des choses à faire pour ma mère. Enfin, les rares choses qu'elle m'estime capable de faire utilement.
Et vous n'avez pas d'amis?
Vous savez, il n'y a pas de meilleur ami qu'une mère.
Bon, à bon entendeur, salut. La mère avant tout. Donc, en fait, c'est Alfred Hitchcock a adapté donc le livre de, enfin oui c'est ça, le livre de Robert Bloch, et c'est en entendant parler à la radio du boucher de Plainfield, donc qui s'appelait en fait Ed Jean, je sais pas trop comment on prononce son nom.
Oui, c'est Edward, je crois. Jane, ouais.
Jane, voilà. Hein. Ça s'écrit G-E-I-N, voilà, pour ceux qui savent bien parler anglais. Voilà, en fait, il vient d'être arrêté pour le meurtre de Bernice Worden, et chez qui l'on a découvert des dizaines d'objets fabriqués à partir de cadavres déterrés dans les cimetières avoisinants. Alors, Bloch, qui habite pas très loin, se demande ce qui peut pousser un homme à de telles extrémités. Et donc, l'imagination du romancier se met en marche, et il en résulte donc le roman Psychose. Alors... Il écrira ensuite plus de 17 scénarios pour la série Hitchcock présente. Mais il va écrire aussi des épisodes de Star Trek, Dark Room et d'autres séries télévisées.
C'est vrai qu'on... Alors nous, on a notre Landru, hein, mais ce Edward Jane, là, c'était donc un tueur en série nécrophile, n'ayant tué officiellement que, entre guillemets, deux femmes, mais certainement beaucoup plus. Finalement acquitté car déclaré irresponsable, mais bon, je voulais juste préciser pour pimenter les choses qu'on trouva chez lui des abat-jours, des rideaux, des draps qu'il fabriquait en peau humaine, donc tout un petit décor, hein. Des cadavres, des morceaux humains dans des bocaux, et je vais m'arrêter là.
Donc ravissant et très cocooning, quoi.
Charmant.
Ça donne envie d'aller boire le thé chez lui.
Ah oui, tout à fait.
Alors, là, on va vous lire donc l'histoire de cette nouvelle, donc qui s'appelle Double Sortilège, qui est éditée dans la grande anthologie du fantastique, et où Robert Bloch parvient à nous surprendre de façon assez spectaculaire. Le titre lui-même de la nouvelle nous invite à nous méfier quand même, mais on ne se méfie jamais assez quand même. Hein. Le lecteur lui-même va donc être victime d'un sortilège et donc et on va marcher et puis tomber dans le piège qui nous est tendu.
Au sens
alors,
propre.
Voilà, hein, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on est incrédule ? Bah, je sais pas, vous verrez, vous verrez. Alors, juste un mot encore pour parler du décor de la foire. Donc, qui, là où se situe la nouvelle, qui inspira par exemple un film comme Freaks et puis beaucoup d'autres films aussi. Hein. Donc, c'est l'univers hein, des marginaux, des bohémiens insolites par la race, phénomène insolite aussi par la configuration, puis par la profession. Hein. Donc, évidemment, tant d'étrangetés bah, les prédispose à la sorcellerie. Hein. Tout se passe comme s'ils vivaient dans un autre monde, de l'autre côté du miroir, là où les hommes n'entretiennent pas les mêmes rapports qu'ici-bas. Et donc, ces gens-là bah, font merveille sur des tréteaux et suivent à grand-peine dans leur roulotte. Ils sont pris entre la tentation d'échapper à leur destin grâce au poker ou de consommer voilà, de l'alcool ou de plein d'autres de produits. Et donc, leur fragilité, leur vulnérabilité en font évidemment des héros fantastiques exemplaires. Voilà. Et donc, juste pour l'anecdote aussi, si vous avez l'occasion de regarder, il y a une série télévisée qui s'appelle « La caravane de l'étrange », dont je vous ai mis la musique là en fond, qui se passe justement dans un cirque itinérant comme ça, avec tout un tas de gens. Alors, il se passe des choses incroyables. C'est assez envoûtant, moi je trouve, enfin moi ça m'a beaucoup plu, mais c'est bizarre hein, quand même.
À voir ou revoir.
Voilà, c'est ça. Et donc, alors il n'y a qu'une saison, parce qu'ils n'ont pas dû avoir de moyens pour faire une, pour suivre la série, mais c'est à voir, c'est à voir. Donc, Philippe, tu voulais nous dire un petit mot avant de... Non ? On lance l'histoire ?
Oui, on peut lancer l'histoire, anticiper sur la fin, dire qu'on n'a pas envie d'être réincarné en poule, ni en mangeur de poule.
Ah bon, comment ça se fait, ça ?
Bizarre.
Alors, je vous laisse... vous serez porté par la voix de Philippe dans cette nouvelle fantastique qui s'appelle Double Sortilège.
Double Sortilège. Rod sortit la poule du sac et la lança dans la fosse. Elle caqueta en battant des ailes et il se détourna. Les curieux, bouche bée, se massèrent autour de la paroi de toile sans lui prêter attention. Tous les yeux étaient maintenant braqués sur le fond de la fosse. La poule caquetait, il y eut un bruit d'empoignade et, simultanément, les spectateurs retinrent leur souffle. Rod n'avait pas besoin de regarder. Il savait que le monstre avait attrapé la poule. Alors la foule commença à hurler. C'était une singulière clameur, mélange de cris de femmes, de rires perçants qui frôlaient l'hystérie, de murmures masculins, rauques et scandalisés. Rod savait aussi ce que signifiait ce vacarme. Le monstre était en train de décapiter la poule à belles dents. Il sortit en vacillant de la petite tente sans se retourner. La brise nocturne qui caressait son visage en sueur lui fit du bien. Sous son mauvais blazer, sa chemise était à tordre. Il faudrait qu'il se change encore avant de monter sur l'estrade pour le prochain boniment. Faire le boniment ne le gênait pas. Son travail consistait à vendre sa salade et il se défendait bien. Il aimait blouser les gogos et les attirer autour de lui. Quand il se tenait debout sous les oriflammes rouge sang à pérorer sur les phénomènes, il était transporté, même s'il ne travaillait que pour une entreprise foraine miteuse qui ne s'exhibait jamais au-delà du nord du Tennessee. Il y avait 3 saisons qu'il faisait ce métier et il était à présent un pro, un vrai forain. Mais brusquement, quelque chose le terrifiait. Inutile de se raconter des histoires, il fallait voir les choses en face. Rod avait peur du mangeur de poules. Il contourna le grand chapiteau et se dirigea vers sa petite roulotte en s'essuyant le front à l'aide de son mouchoir. Cela le revigora un peu, mais il ne pouvait pas effacer aussi aisément ce qu'il y avait dans sa tête. La peur glacée, la peur visqueuse qui, désormais, ne le quittait ni jour ni nuit. Mais bon Dieu, ça ne tenait pas debout. La galerie des joyeux phénomènes n'y était jamais allée par le dos de la cuillère. Ici, dans ce pays perdu, un meurtrier pouvait encore s'en tirer, surtout s'il se contentait de tuer des poules. Et puis d'ailleurs, qui se fait du souci pour des poules? Les bouchers en décapitent des dizaines de milliers tous les jours. Une poule, ce n'est qu'un oiseau pouilleux, et un mangeur de poule n'est qu'un pouilleux de pochard. Un sac à vin qui, un beau jour, s'accroche à la caravane, se déguise en sauvage bidon, et fait des bonds au fond d'une tente de toile pendant que le bonimenteur y va de son jus sur la férocité de ce monstre mi-homme, mi-bête. Après quoi, l'aboyeur lui lance une poule et le mangeur de poule fait son numéro. Rod secoua la tête, mais sans parvenir à chasser ce qui y était tapis à l'intérieur. Quelque chose d'inamovible, de glacé et de visqueux, roulé en boule. Quelque chose qui était là presque depuis le début de la saison. Et Rod se rendait compte que cela se développait. Oui, ça poussait. La peur grandissait. Mais pourquoi? Au cours des 3 années passées, il avait travaillé avec une demi-douzaine de poivrots. Peut-être que décapiter une poule vivante n'était pas exactement le moyen le plus sublime de gagner sa vie. Mais si les mangeurs de poules s'en fichaient, Rod n'avait pas à se tracasser. Et il savait que le phénomène n'était pas vraiment un monstre, rien de plus qu'un pauvre vieux pochard au bout du rouleau, prêt à faire n'importe quoi du moment qu'il avait sa ration quotidienne de torboyaux. Celui qu'on montrait cette saison s'appelait Mike, un type tranquille qui fichait la paix à tout le monde quand il ne travaillait pas. Sous le maquillage au bouchon brûlé, un visage triste et ridé de quinquagénaire. Le visage d'un homme qui avait connu 50 dures années, dont 30 peut-être à boire sec. Il n'ouvrait jamais la bouche. Il prenait seulement sa bouteille et allait la téter, rouler en chien de fusil sur la bâche d'un camion. Quand il le voyait à ce moment-là, Ron n'avait pas peur. S'il éprouvait un quelconque sentiment, c'était plutôt une sorte de pitié pour le malheureux. Ce n'était que lorsque le mangeur de poules était dans la fosse que la petite graine de peur s'épanouissait en Rod. Lorsqu'il voyait la perruque de laine, le masque noirci, les mains peinturlurées qui se tendaient toutes griffes dehors. Eh oui, oui, et quand il voyait s'ouvrir la bouche ricanante, aux dents jaunes et pourries, prêtes à mordre. Maintenant, c'était terrible. Il fallait qu'il s'accroche de toutes ses forces, mais personne ne le savait. Et personne ne le saurait jamais. Rod n'allait pas s'épancher dans le giron de quelqu'un, n'est-ce pas? Et s'il se précipitait chez un psychanalyste en criant « Aidez-moi, docteur, j'ai peur de devenir un mangeur de poules !» Ah, il aurait eu bonne mine. Non, il n'était pas fou à ce point-là. Aucun réducteur de tête ne pouvait l'aider, et quoi qu'il advienne, il ne finirait jamais par faire ce métier pour gagner sa pitance. Il garderait ça pour lui. Il y était forcé, et il le ferait, aussi longtemps que personne ne se douterait de ce qui se passait. Il grimpa les marches et s'engouffra dans l'obscurité de la roulotte, tout en ôtant sa veste et en déboutonnant sa chemise trempée.
Thank you.
Soudain, des mains se posèrent sur sa poitrine nue, remontèrent jusqu'à ses épaules pour l'étreindre, tandis qu'une odeur parfumée montait à ses narines, qu'un corps tiède se plaquant contre lui et qu'une voix chuchotait « Rod, chéri, tu n'es pas surpris ?» À dire vrai, il ne l'était pas. Mais il était heureux qu'elle l'ait attendu. Il la serra dans ses bras, pressa ses lèvres contre les siennes, et tous deux se laissèrent choir sur la couchette. « Cora, murmura-t-il, Cora, chut, nous n'avons pas le temps de parler. » Elle avait raison, il n'avait pas le temps. Il devait retourner sur l'estrade dans un quart d'heure. Et parler aurait été une idée malencontreuse. Madame Sylvia avait la mauvaise habitude de surgir à pas de loup au moment où l'on s'y attendait le moins. Pourquoi fallait-il qu'une jolie petite caille comme Cora soit affligée d'une grand-mère comme cette vieille chouette de Madame Sylvia? Mais pour l'heure, ce n'était pas aux grand-mères que Rod pensait, et pas davantage aux avaleurs de poules. Il pensait à ce que Cora était en train de lui faire, à ce qu'elle faisait pour lui, à son corps impatient qui s'arc-boutait et dont la chaleur faisait fondre le glaçon de la peur. C'était dans ces moments-là qu'il comprenait pourquoi il ne pouvait pas laisser tomber, pourquoi il restait, malgré tout. Parce que rester, c'était aussi rester avec Cora. Et il n'en demandait pas plus. Cora était tout, et le reste avec. Ce ne fut qu'un peu plus tard, alors qu'il s'escrimait pour enfiler sa chemise, quand il l'entendit chuchoter. « Je t'en prie, chérie, dépêche-toi, et sortons de là avant qu'elle ne vienne me chercher. » Qu'il se demanda si cela valait réellement la peine. Et oui, tout ça pour une étreinte, vite fait dans le noir, avec une petite adolescente basanée, qui faisait littéralement dans son jean chaque fois que la vieille fronçait le sourcil. Certes, Cora était un fin morceau qui lui allait comme un gant, mais si l'on y réfléchissait, c'était encore une gamine, et il ne serait venu à l'idée de personne de prendre ce qui lui tenait lieu de cervelle pour un ordinateur. En plus, c'était une moricaude. Enfin, pas exactement une moricaude, peut-être, mais une bohémienne, et ça revenait au même. En regagnant son estrade pour le dernier numéro de la journée, Rod décida qu'il était temps de laisser choir. La peur était revenue. Dans la nuit, la caravane plia bagages et se mit en route pour la foire de Mozzo Conti, où elle devait rester 10 jours. Le montage des baraques prit toute la journée. Le soir venu, les badauds commencèrent à affluer, rien que des paysans descendus de leurs collines où ils pompaient le pétrole. Chaque nuit, ils s'en amenaient dans les 2000, et ils ne s'embêtaient pas. Pendant une semaine, Rod se débrouilla pour se trouver à l'écart de Cora, sans que cela ait l'air trop ostentatoire. La baraque où la grand-mère exerçait ses talents de voyante était à l'autre bout de l'allée centrale, et la jeune fille jouait les barons. Elle était généralement trop occupée pour s'esquiver. Deux fois, Rod la repéra au milieu de la foule entourant la plateforme qui lui faisait des signes, mais il regardait toujours de l'autre côté, feignant de ne pas l'avoir vue. Une autre fois, il l'entendit gratter à la porte de sa remorque au milieu de la nuit. Il fit semblant de dormir, même quand elle l'appela. Au bout de 10 minutes, Cora renonça et s'en fut. Hélas, Rod n'avait pas si bon sommeil. Dès qu'il fermait les yeux maintenant, il revoyait la fosse, le visage noirci de Mike et la poule blanche. Aussi, lorsque Cora revint à la charge et gratta à nouveau à la porte, il la fit entrer et dans l'asile des bras de la jeune fille, il oublia la fosse. Au lieu des grondements de l'avaleur de gallinacés et des caquettements de la poule, c'était sa voix douce et chaude qu'il entendait dans le noir, sa voix qui murmurait « Tu m'aimes, n'est-ce pas, Rod ?» La réponse fut immédiate, comme toujours « Bien sûr que je t'aime, tu le sais bien. » Les ongles de Cora s'enfoncèrent dans son bras. « Eh bien, comme ça, on va pouvoir se marier, et j'aurai le bébé. » « Le bébé ?» Il se dressa d'un bond sur son séant. « Je ne voulais pas te le dire, chérie, pas avant d'être sûr, mais maintenant je le suis. » La voix de Cora était vibrante. « Non mais, tu te rends compte, mon amour ?» Rod réfléchissait, et quand il parla, sa voix à lui était sèche. « Et ta grand-mère, Madame Sylvia, est-ce qu'elle est au courant ?»« Pas encore, je voudrais que tu viennes avec moi quand je le lui annoncerai. »« Ne lui dis rien. Comment ça ? Ne lui dis rien. Et le môme, eh bien, fais-le passer. Mais Rod, tu m'as entendu. Il se dégagea de l'étreinte de Cora, en dépit des efforts qu'elle faisait pour le retenir, se leva et empoigna sa chemise. À présent, elle sanglotait. Mais plus elle pleurait fort, plus Rod se dépêchait de s'habiller, comme si elle n'était pas là. Comme si elle ne faisait pas tout ce cinéma à bredouiller que ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'il ne pouvait pas lui faire ça. Qu'il fallait qu'il l'écoute. Et que si la vieille l'apprenait, elle la tuerait. Rod avait envie de lui hurler, de la boucler, de lui en retourner une en plein sur la bouche pour qu'elle se taise une bonne fois. Mais il réussit à se contrôler. Et quand il reprit la parole, sa voix était apaisante. « Calme-toi, mon chou. Ne nous énervons pas comme ça. Il n'y a pas de problème. »« Mais je t'ai dit... » Il lui tapota l'épaule dans l'ombre. « Détends-toi, tu veux ? Tu n'as pas à te faire de bile. Tu m'as dit toi-même que ta grand-mère ne sait rien. Débarrasse-toi tout de suite du môme et elle ne le saura jamais. » Bon Dieu, c'était d'une telle simplicité que même une débile comme Cora aurait pu le comprendre. Mais au lieu de cela, elle se mettait à chialer encore plus fort en le frappant à coups de poing. « Non, non, tu ne me forceras pas à faire ça. Il faut qu'on se marie. Le jour où je me suis donné à toi, tu m'as promis qu'on se marierait dès que la saison serait finie. » En ce qui me concerne personnellement, elle l'est, d'ores et déjà. Rod s'efforçait de parler bas, mais quand elle s'accrocha à lui, ce fut pire encore que les coups de poing. Il ne pouvait pas supporter plus longtemps cette façon qu'elle avait de se suspendre à son cou et de pleurnicher. « Écoute-moi, Cora, je suis désolé de cette histoire, tu le sais, mais question mariage, faut pas y compter. » Du coup, elle couina si fort qu'on aurait pu croire que c'était la fin du monde, et Rod dut la gifler pour qu'elle ne réveille pas les autres avec ses braillements. Il ne se sentait pas très fier de la cogner comme ça, mais il fallait qu'il la calme pour la flanquer dehors. Elle partit en pleurant, mais sans faire de bruit. Elle avait quand même fini par comprendre. Il ne la vit ni le lendemain, ni le surlendemain. Mais pour être bien sûr qu'elle ne reviendrait pas le harceler, il passa les deux nuits suivantes dans la remorque de Boots Donahue à jouer au stud avec les gars. Si jamais il y avait un pépin et qu'il lui faille se faire la paire en vitesse, s'était-il dit, quelques dollars de plus extorqués à ce vieux râleur pourraient lui rendre service. Seulement, les choses ne se passèrent pas tout à fait comme il l'espérait. En général, il avait de la chance aux cartes, mais pour une fois, la veine le trahit. C'était la mauvaise passe, et en définitive, il laissa sur le tapis sa paye des 3 semaines suivantes. C'était ennuyeux, mais il y eut plus grave. Ce fut Ras du Sol qui le lui apprit. Rod se dirigeait vers la tente cuisine pour prendre son petit déjeuner, quand Ras du Sol le héla. Il était étendu devant sa remorque sur un vieux bas-flanc de l'armée, une cigarette aux lèvres. « Tu me l'allumes, Rod ? » Rod s'exécuta, et il resta, sachant qu'il lui faudrait secouer la cendre de la cigarette. Et un type, né manchot et cul-de-jatte, a aussi quelques difficultés à jeter son mégot. C'était bizarre, mais Rod n'éprouvait aucun sentiment de répulsion à l'égard des phénomènes. Même Rat du Sol, qui n'était jamais qu'une tête vivante attachée à un torse informe, ne lui donnait pas la chair de poule. Peut-être parce que l'homme tronc n'avait pas l'air de s'en soucier. Il admettait tout simplement qu'il était un monstre. Voilà tout. En outre, il parlait et agissait comme un individu normal. Aucun rapport avec cet ivrogne de Mike qui s'affublait d'une perruque à faire peur, se noircissait la figure et poussait des grognements de bête en furie quand il se jetait sur une poule. S'efforçant de chasser ses pensées, Rod prit à son tour une cigarette. Au moment où il allait gratter l'allumette, Rat du Sol le dévisagea. « T'es au courant de la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?»« Cora est morte. » Rod se brûla les doigts et lança l'allumette au loin. « Morte ?» Rat du Sol opina. « Oui, cette nuit, Madame Sylvia l'a retrouvée dans la roulotte après la fermeture. »« Mais comment est-elle morte ?» Rat du Sol se contenta de le regarder. « Ah ça, je pensais que tu aurais pu me le dire. »« Ça signifie quoi au juste, cette vanne ?» parvint à demander Rod d'une voix étranglée. « Rien, rien. » Rat du Sol haussa les épaules. Madame Sylvia a raconté à Donahue qu'elle est morte d'un éclatement de l'appendice. Rod respira à fond. Il se contraignit à prendre une mine de circonstances, mais il se sentait léger, on ne peut plus léger, jusqu'au moment où Rat du Sol ajouta « La seule chose, c'est que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se soit fait éclater l'appendice avec une aiguille à tricoter. » Rod lui prit sa cigarette des lèvres et la secoua. Sa main tremblait tellement que la cendre tomba toute seule. « Cette histoire d'appendice, c'est du bidon. Madame Sylvia ne tient pas à ce que les flics viennent fureter. » Rat du Sol hocha la tête tandis que Rod lui glissait la cigarette entre les lèvres. « Mais si tu veux mon avis, elle est au courant. » « Écoute un peu, si tu prétends ce que je crois que tu es en train de prétendre, tu ferais mieux d'oublier ça. »« Bien sûr, je l'oublierai, mais pas Madame Sylvia. On l'enterre cet après-midi au cimetière du pays, » reprit-il entre haut et bas. « Je te conseille d'assister à la cérémonie avec nous autres pour que ça n'ait pas l'air bizarre. Et après, de te faire la malle en vitesse. »« Attends un peu !» Rod était tout disposé à jouer les innocents, mais à quoi bon ? Rat du Sol savait, et il était idiot de lui jouer la comédie. « Je ne peux pas partir. Je dois 3 semaines de salaire à Boots Donahue. Si je me barre, il le claironnera sur les toits, et je ne trouverai plus de travail dans les foires. Pas dans la région, en tout cas. » Rat du Sol recracha son mégot, qui atterrit à côté du bas-flanc. Rod l'écrasa d'un coup de talon. « Tant pis pour l'argent, » fit alors l'homme tronc, secouant la tête. « Si tu ne disparais pas, tu ne travailleras plus nulle part. » Il jeta un regard méfiant autour de lui et continua sur un ton à peine audible. « Tu ne comprends donc pas. C'est le coup dur. Je te dis que Madame Sylvia sait ce qui est arrivé. » Rod n'avait nulle envie de baisser la voix. « Cette vieille taupe, tu as dit toi-même qu'elle ne voulait pas avoir affaire aux flics. » Et même si elle les appelait, elle ne pourrait rien prouver. Alors, de quoi avoir peur ? De la jetatura, répondit Rat du Sol. Rod le regarda en battant des paupières. Tu veux que je te fasse un dessin ? Il y a 3 saisons, juste avant que tu rejoignes la caravane, on avait comme régisseur un dénommé Richer. Un type tout ce qu'il y avait de chouette, mais il avait un problème. Les serpents le terrifiaient. Babe Flynn faisait un numéro de serpent. Elle avait toute une flopée de boa constrictors qu'elle faisait travailler et qui étaient parfaitement inoffensifs. Mais Richer en avait une telle phobie qu'il ne s'approchait jamais de sa roulotte. Son erreur a été de s'approcher de celle de Madame Sylvia. Cora était encore toute jeunette à l'époque, à peine éclose en quelque sorte, mais ça n'a pas empêché Richer d'attaquer. Rien de grave, il se bornait à la baratiner. Comme la vieille l'a appris, je n'en sais rien comment la vieille l'a appris, mais je sais davantage comment elle a appris qu'il avait la terreur des serpents, parce que naturellement il faisait tout pour le cacher. Toujours est-il qu'un jour, la veille de notre départ, on était à Red Clay, elle est allée faire un tour du côté de la roulotte à Richer. Il était dehors en train de se raser devant une glace accrochée à la porte. Elle ne lui a rien dit. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a juste regardé son reflet dans le miroir. Et puis, elle a fait deux ou trois passes en bafouillant quelque chose et elle est repartie. Elle n'a rien eu de plus à faire. Le lendemain matin, pas de Richer. On l'a retrouvé sur le plancher de sa roulotte, plus froid que la banquise. La moitié de ses os était brisée et à la façon dont son corps avait été broyé, on aurait dit qu'une douzaine de boas constricteurs lui avaient écrasé les tripes. J'ai vu son visage et je te prie de croire que ce n'était pas un joli spectacle. Tu veux dire que la vieille lui avait lâché les serpents dessus ? Demanda Rod d'une voix enrouée. Ras du sol hocha la tête. Babe Flynn les gardait sous clé. Elle a juré, ses grands dieux, que personne ne s'était même approché de sa roulotte pendant la nuit, et, à plus forte raison, que personne ne les avait libérés. Mais Richer était mort. C'est à ça que je pensais en parlant de la Jetatura. Voyons, Madame Sylvia n'est rien de plus qu'une voyante qui prédit soi-disant l'avenir au gogo, répliqua Rod, cherchant à se convaincre lui-même, tout autant qu'à convaincre Ras du Sol. Tous ces bobards qu'on raconte sur les malédictions des gitans. Mais Ras du Sol haussa les épaules. Comme tu voudras, mais si j'étais toi, je me tirerais aussi sec. Et en attendant, je m'arrangerais pour que la vieille ne me surprenne pas devant un miroir. Bon, merci pour le tuyau. On se reverra à l'enterrement, lui lança le cul de jatte, comme Rod s'éloignait. Mais Rod n'alla pas à l'enterrement. Pas parce qu'il avait peur, ni rien de pareil. Simplement, il n'avait aucune envie de se retrouver devant la tombe de Cora, sous les yeux des autres qui le regarderaient comme s'il savait. Et maintenant, il savait. Tous ! Le plus intelligent aurait peut-être été de s'esquiver sans tambour ni trompette, comme Ras du Sol l'avait suggéré, mais c'était prématuré. Rod ne pouvait pas prendre la poudre d'escampette avant d'avoir payé sa dette à Donahue. 3 semaines à patienter. D'ici là, il se tiendrait sur ses gardes. Non qu'il crût un mot de cette ridicule histoire de Jetatura. Ras du Sol l'avait seulement fait marcher. Oui, c'était une blague. Mais être prudent n'a jamais fait de mal à personne. Ce fut la raison pour laquelle Rod se rasa pendant l'après-midi, sachant que la vieille était à l'enterrement avec tous les autres. Pas de risque qu'elle s'amène subrepticement derrière lui pour s'emparer de son âme par le truchement de son reflet dans la glace. Sûr qu'il n'y avait aucun risque. Rod s'adressa une grimace dans le miroir. Et d'abord, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire, ces histoires de malédiction? Il n'était pas client. Mais il y avait quand même quelque chose de bizarre. L'espace d'un instant, il cessa de se voir dans la glace. Au lieu de son image, il voyait un visage noir et ricanant, aux yeux injectés et bordés de rouge, une bouche torve qui s'ouvrait sur des dents jaunes. Il scia et le visage s'effaça. Il n'y avait plus que son propre reflet qui le contemplait, mais sa main tremblait tellement qu'il dut poser son rasoir. Elle tremblait encore lorsqu'il saisit la bouteille sur l'étagère et il renversa plus de whisky qu'il n'en coula dans le verre. Aussi se résolut-il à boire directement au goulot. Une bonne rasade, et puis une autre, jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Un petit coup de temps en temps, c'est excellent pour les nerfs. La seule chose, c'est qu'il faut faire gaffe. Ne pas s'abandonner à la gnôle, sinon... On finit très vite par ne plus pouvoir s'en passer et, un beau jour, sans qu'on se soit rendu compte de rien, on se retrouve dans la fosse, avec une perruque de laine et le visage noirci à attendre la poule blanche. Allez, allons donc, ça ne se passera pas comme ça. Encore 15 jours, et Rod jouerait la fille de l'air. Adieu la caravane, plus personne pour l'embêter. Il suffisait simplement qu'il conserve son sang-froid et qu'il se tienne sur ses gardes. Alors, il fit très attention le soir quand il monta sur l'estrade et régla son micro pour y aller de son boniment. Debout devant les oriflammes couleur de sang, il se sentait bien, très bien en vérité. Les 2 petits coups de whisky supplémentaires qu'il s'était octroyés pour lui porter chance semblaient avoir fait fondre le petit noyau de peur enfoui dans sa tête. Son laïus sur les phénomènes, « Ils sont tous réunis à l'intérieur, bonnes gens !» coulait de source, et il regardait les amateurs qui s'agglutinaient autour de l'estrade. C'étaient eux les vrais phénomènes, mais ils ne le savaient pas. Eux qui payaient pour contempler bouche bée de pauvres diables comme rats du sol, et qui versaient une rallonge pour avoir droit à l'attraction spéciale interdite aux mineurs, pour savoir ce qui se passait dans la fosse de toile derrière le grand chapiteau. Il fallait vraiment être pervers pour casquer afin de voir un avaleur de poules vivantes. Qu'est-ce qu'ils avaient donc dans la peau? Et lui, planté à côté de la fosse, avec, à la main, le sac de grosse toile à l'intérieur duquel la malheureuse poule se débattait vainement. Rod sentait la peur l'envahir à nouveau. Il ne voulait pas regarder dans la fosse. Il ne voulait pas voir Mike accroupi, grondant et grimaçant comme un authentique sauvage. Aussi regardait-il la foule. Comme ça, ça allait mieux. Les curieux ne savaient pas qu'il avait peur. Personne ne savait qu'il était terrifié, et encore moins ce qui le terrifiait. Il débitait son boniment. Il commença à dénouer le cordon, maintenant le sac fermé et se préparant à l'ouvrir pour lancer la poule dans la fosse. C'est alors qu'il la vit. Elle se tenait juste devant le côté de la fosse. Une banale petite vieille, en noir, la tête recouverte d'un châle noir. Mais ses traits étaient tirés, sa peau bistre et parcheminée, et son visage ridé était sombre. Rien qu'une petite vieille à laquelle nul ne prêtait attention, mais Rod la vit. Et elle le voyait. C'était étrange. Il n'avait jamais remarqué les yeux de Madame Sylvia auparavant, de larges yeux marrons au regard fixe. Ils étaient braqués sur Rod, ils le traversaient. Il se détourna non sans peine, obligea ses doigts à dénouer le cordon. En même temps, il continuait de parler machinalement. La fin de la représentation approchait. Il plongea son bras dans le sac, en sortit la poule, lança la créature caquetante qui battait des ailes à l'autre créature tapie au fond de la fosse, la créature qui grondait, qui se jetait sur sa proie et qui, maintenant, oh mon Dieu, la décapiter à belles dents. Incapable de voir cela, Rod tourna la tête. Les spectateurs hurlaient et frémissaient, ils prenaient leurs pieds. La vieille était toujours là, debout, à le regarder. Mais à présent, sa main aux doigts crochus glissait sur le rebord de la fosse. Elle tendit son index. Rod savait ce qu'elle désignait ainsi. Le fond de la fosse. Et son visage ridé pouvait changer d'expression. Maintenant, elle souriait. Rod fit demi-tour et, jouant des coudes, se perdit dans la nuit. Mais elle savait. Pas seulement ce qui s'était passé entre Cora et lui. Elle savait tout. Ses yeux, dont le regard l'avait traversé, avaient vu au fond de lui. Ils avaient décelé sa peur. C'était pour cela qu'elle avait tendu le doigt en souriant. Elle savait de quoi Rod avait peur. Les lumières de l'allée centrale étaient éclatantes, mais il faisait noir derrière le mur de toile. Seule une flaque de lune miroitait à la surface de la grosse citerne posée à côté de la tente cuisine. Rod était en nage. Il s'approcha du baril et trempa son mouchoir dans l'eau pour s'éponger le front. Très bientôt, il allait falloir qu'il remonte sur l'estrade pour recommencer son numéro. Il fallait qu'il récupère. L'eau fraîche lui éclaircit les idées et il humecta à nouveau son mouchoir. Cela allait mieux. C'était idiot de se mettre dans des états pareils sous prétexte qu'une vieille folle l'avait regardé d'une drôle de façon. Toutes ces histoires de bohémiennes, de mauvais œil, de jetatura n'étaient que des foutaises. Et, même s'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, il ne lui donnerait pas l'occasion de l'ensorceler. Désormais, il ne s'approcherait plus des miroirs. Baissant les yeux, il vit son reflet dans l'eau que faisait miroiter la lune et le visage de la vieille à côté du sien. Elle avait le regard fixe et ses lèvres bougeaient tandis qu'elle marmonnait quelque chose. Ses mains surgirent, faisant des passes. Comme une sorcière, avec ses passes, elle allait le transformer en manche-poule. Eh, la jetatura! Rod se retourna, et ce fut la dernière chose qu'il se rappela. Il avait dû perdre connaissance et tomber, car, lorsqu'il revint à lui, il était encore par terre. Mais ce n'était pas tout à fait le même sol que derrière la tente. Ce sol-là était recouvert de sciure, et la lumière était plus violente. Elle tombait droit entre les parois de toile de la fosse. Il était dans la fosse. Ce fut l'illumination. Rod leva les yeux, sachant qu'il était trop tard, qu'elle l'avait ensorcelé, qu'il était désormais dans le corps du manche-poule. Mais il y avait encore autre chose d'anormal. La fosse était plus profonde, ses parois de toile beaucoup trop hautes. Tout paraissait plus grand, démesuré, même les visages brouillés qui, au-dessus de lui, se pressaient tout autour de la fosse. Mais tellement loin. Pourquoi était-il si petit? Entendant un grognement, il se retourna, levant à nouveau les yeux, et il eut juste le temps de voir le masque noir et grimaçant qui le surplombait, la bouche géante qui s'ouvrait, révélant ses dents jaunes et pourries. Ce fut seulement alors que Rod comprit ce qu'avait réellement fait la vieille. Au moment où les énormes mains fondirent sur lui, un instant, il caqueta en battant des ailes. Et le mangeur de poules le décapita d'un coup de dent.
Thank you.
Bon, bah voilà, on n'a pas envie de caqueter. Hein.
On sait un carreau, là. Hein, c'est... ça donne des frissons.
Ça donne quelques frissons.
Ah.
Alors, on parlait d'un terme un peu désuet, mais qu'on aime bien, le terme de boniment qui revient à plusieurs reprises dans cette histoire. Ça renvoie d'abord boniment, il y a ment, hein, de mentir. Et puis ça renvoie ce qu'on
disait... Oui, mais c'est des bonis, bons mensonges.
Exactement. Et ça renvoie au bonimenteur qui tenait des stands où on montrait des horreurs parfois humaines. Je pense à Elephant Man.
Bah oui, dans Elephant Man, voilà.
Et puis
dans le film Freaks aussi, Freaks, hein, voilà, on voit ça.
Et on se disait avec Mireille qu'on ne voit plus trop ça, hein, parce que c'est plus très politiquement correct.
Voilà, c'est ça. Alors, il reste quelques bonimenteurs sur les foires, ouais, comme, je ne sais pas, la Saint-Nicolas, les gars qui vendent leurs couteaux, leurs faisselles.
Oui, c'est ça, le couteau qui ne s'use jamais, la nappe qui ne se salit jamais.
Mais c'est vrai que c'est un métier qui se perd quand même.
Eh oui, ma bonne dame.
Alors, bon, j'espère que vous n'aurez pas eu trop de frissons, là. Mais comme, du coup, nous, voilà, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était super, ces histoires. Eh bien, la prochaine fois, on va vous en raconter une autre du même auteur, hein, donc Robert Bloch, qui n'est pas à confondre avec Laurence Bloch, dont on vous a déjà parlé dans une émission précédente, oui, et qui, lui, est un auteur de romans policiers.
Hein, de thriller,
mais, ouais. De thriller, mais de plus actuel, quoi, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, ça, leur nom ne s'écrit pas pareil. Enfin, bon, c'est pas...
Des blogs différents.
Voilà. Alors, pour en revenir à Robert Bloch, c'est en voyant Lon Chaney. Alors, Lon Chaney, vous savez, c'est un vieil acteur, donc, du presque cinéma muet, là, des films en noir et blanc.
Tu me l'apprends.
Voilà. Il avait une tête pas possible. Et donc, c'est en voyant Lon Chaney dans Le Fantôme de l'Opéra, à l'âge de 8 ans, voilà, qui va se passionner pour le genre fantastique. Et donc, à l'âge de 10 ans, il découvre un magazine qui s'appelle Weird Tales. Et de tous les auteurs publiés, ce sont surtout les histoires de Howard Phillips Lovecraft qui vont l'impressionner. Et donc, dès cet âge-là, il va entretenir une correspondance régulière avec Lovecraft, ce dernier lui prodiguant d'ailleurs conseils et encouragements pour ses propres écrits. Alors, Bloch s'en redit même à lui demander la permission de l'assassiner, littérairement parlant, pardon, pour pouvoir que l'auteur de Providence va lui accorder bien volontiers. Lovecraft apparaît ainsi de manière transparente dans la nouvelle intitulée « Le visiteur venu des étoiles », écrite en 1935, en tant que personnage bibliophile qui finit dévoré par une monstrueuse créature extraterrestre. Alors le « défunt », entre guillemets, hein, rend amicalement l'appareil à son jeune correspondant dans la nouvelle « Celui qui hantait les ténèbres », écrite en 1936. Et donc, tout au long de sa carrière, Bloch témoigne de sa reconnaissance et de son admiration vis-à-vis de Lovecraft.
Voilà, et justement, on parlait de cette espèce de dynastie d'influence, là, en remontant à Edgar Poe, puisque Lovecraft lui-même était très influencé par Edgar Poe, son illustre prédécesseur dans le genre fantastique. Et c'est ce qu'on se disait, finalement, le genre fantastique, moi, dans mon idée, j'aurais plutôt situé ça début 20e. Mais finalement, Edgar Poe est né tout début 19e. Donc, c'est un genre qui est bien antérieur à ce que généralement on peut penser.
Bah oui, oui, oui.
Et puis, donc, la suite, bah, ça a été effectivement des gens comme Lovecraft, Bloch. Et puis après, il y a des suivants aussi, justement, qui sont aboutis à la science-fiction, ce qu'on se disait tout à l'heure. Et puis après, peut-être, on pourrait dire le roman d'anticipation, Orwell, Barjavel, ce genre d'auteur, quoi. Voilà. Donc on comprend mieux, je trouve,
les romans de science-fiction, les auteurs de science-fiction, voilà, aussi, qui sont un peu de cette descente, de cette lignée, en
exactement,
tout cas, d'auteurs.
Et tu parlais aussi de Barbey d'Aurevilly, alors là,
voilà,
en remontant
voilà,
plutôt au 19e, c'est tout à fait intéressant de voir comment ça a évolué.
Et donc, pour en revenir juste à Edgar Poe que tu évoquais, je suis justement en train de lire des nouvelles d'Edgar Poe.
Ça tombe
bien.
Je me
disais que c'était peut-être un peu difficile à lire parce que c'est quand même très, très littéraire.
Un
vocabulaire un peu ancien,
daté.
Voilà. Mais il faut quand même se rappeler donc, que ce n'est pas, non pas Verlaine, comme je disais tout à l'heure, mais Baudelaire qui a traduit les œuvres d'Edgar Poe en français.
Grand traducteur, oui.
Alors, sans abandonner totalement l'horreur fantastique, hein, Robert Bloch, lui, va délaisser ensuite ce genre afin de se consacrer complètement à la littérature policière et aux thrillers d'horreur psychologique. Il va rédiger plusieurs histoires autour de Jack l'Éventreur, notamment votre dévoué Jack l'Éventreur, l'une de ses plus célèbres nouvelles, ainsi que le roman La Nuit de l'Éventreur. Donc Bloch, au cours de son parcours littéraire, va utiliser de nombreux pseudonymes tels Tarleton Fisk, Sherry Malone, E.K. Jervis, Wilson Ken, John Sheldon ou encore Will Falk. Voilà.
Oui, ça interroge un peu, ça se fait plus tellement ça d'ailleurs, les pseudonymes.
Bah oui, de changer.
Changer pour surprendre le lecteur peut-être.
Bah oui, parce que c'est dans un autre style, alors pour pas garder l'étiquette, sûrement. Mais on avait vu ça avec, Laurence Bloch aussi, qui lui aussi avait plusieurs pseudonymes pour écrire, suivant les romans, ses héros de romans, il y changeait de nom lui-même, voilà. C'est pour se donner une nouvelle personnalité.
Pour
brouiller les pistes. Alors ensuite, Bloch, il va déménager à Hollywood et puis il va donc écrire toujours des romans, des nouvelles, des articles aussi, mais aussi des nouvelles pour des magazines masculins comme Playboy, Rogue, Cavalier, mais également aussi des scénarios pour le cinéma. Donc en 62, par exemple, il écrit le scénario de The Coach de Owen Crump. En 1962, le scénario du cabinet du docteur Caligari de Roger Kay. Et en 64, par exemple, La meurtrière diabolique de William Castle. Et pour aussi, par exemple, en 67, Le jardin des tortures de Freddy
prometteur.
Francis. Voilà, hein, ça donne envie. Et puis, ou encore Asylum, hein, en 72, de Roy Ward Baker. Voilà. Donc, en tout, il va écrire une trentaine de romans, une douzaine de recueils de nouvelles, dont un livre en collaboration avec Ray Bradbury, lui est un auteur très connu de science-fiction.
De science-fiction, voilà. Avec Fahrenheit 451, le fameux roman adapté au cinéma par François Truffaut. Alors, à préciser que 451 degrés Fahrenheit équivalent à 232 degrés Celsius, ce qui constitue le point d'auto-inflammation du papier, puisque tu sais, dans ce film.
Il brûle les livres.
Voilà, une drôle de société utopique qui brûle les livres.
Qui brûle les livres. Bon, mais alors nous, on ne brûle pas les livres, on les lit. Voilà. Et on vous raconte les meilleures histoires qu'on arrive à trouver entre les pages des livres. Voilà. Pour terminer, sur Robert Bloch. En tant qu'éditeur aussi, il va publier quelques recueils de nouvelles. Et d'ailleurs, certaines des œuvres qu'il va éditer vont être adaptées ensuite en bande dessinée.
C'est une grosse production quand même. Hein.
Oui, c'est quand même...
un auteur déjà...
assez prolifique.
Accompli.
Hein, puis bon, plein de... qui ont été faites pour le cinéma, tout ça, donc...
Alors en France, je pense que c'est Psychose qui l'a révélé
au
grand public.
On connaît surtout cette fameuse nouvelle adaptée par Hitchcock. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il a fait plus de 17 scénarios pour Hitchcock, vous savez, pour les petites histoires qu'Hitchcock, la série Hitchcock présente.
Hitchcock présente. Voilà. Très, très drôle, sa présentation.
Voilà.
Ironique.
Et Robert Bloch a fait plus de 17 scénarios pour ces séquences-là. Alors nous, on a trouvé ça tellement bien, qu'on se propose la prochaine fois de vous raconter une autre histoire. Et cette histoire-là, elle s'appelle « Au bord de l'eau ». Et alors vous verrez, on ne vous en dit pas plus aujourd'hui.
Le titre peut être un petit peu poétique, mais c'est un peu plus dur.
C'est pas franchement un pique-nique au bord de l'eau, mais...
C'est pas très romantique, mais il y a du suspense.
L'émission va bientôt se terminer. Je sais plus. Voilà, dans quelques secondes. Donc, je vous propose de vous retrouver le mois prochain où on vous lira donc ce texte Au bord de l'eau, toujours de Robert Bloch. Et là, le texte sera lu par Philippe et moi-même.
En duo. C'est à quelle heure cette émission ?
Alors, c'est le dernier vendredi de chaque mois, de midi à 13h. Merci Philippe de rappeler les horaires. Ah, très bien, très bien. Donc, eh bien, bon week-end à vous tous et puis à très bientôt sur les ondes de Principe Actif.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.